Vous écoutez Que Québec se lève avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson.
Bon, ben la nouvelle est tombée hier. Commence à être temps qu'elle tombe, là. Je sais pas, est partie d'où, mais elle a tombé longtemps avant d'arriver. Ouais. Finalement
elle finissait arrivée. Pas de tomber.
Elle finissait pas de tomber.
Mais tu vois, c'était pas tant une coïncidence, j'ai l'impression, à l'heure où c'est tombé, on pourra demander à Eric, mais Donald Trump avait annoncé que lui, il avait un point de presse à 11h.
11h30, c'est sorti des minutes suivantes.
11h25. Fait que j'ai l'impression que les grands réseaux ont dit c'est pas vrai que Trump va encore une fois prendre le contrôle du narratif en disant non, j'ai gagné.
Oui, parce qu'après ça, moi, je regardais voir, écoutons, il va-tu faire sa conférence de presse?
Ouais, il l'a pas fait finalement?
C'était ses avocats.
Il était allé jouer au golf à la place.
Ouais.
Il était allé faire un petit 9 tours d'après-midi.
Il était joué au golf, pour vrai?
Ouais, j'ai lu ça quelque part aussi, j'ai pas vérifié. Ah, c'était écœurant. Donc, Joe Biden est le président élu des États-Unis, Kamala Harris est sa vice-présidente. Petit cours privé avec le prof Arsenault sur ce qui s'est passé. Éric Arsenault, prof d'actualité internationale au Cégep de Jonquière. Bonjour, prof Arsenault.
Bonjour, messieurs.
Bon, il y a beaucoup de gens qui se réjouissaient hier aux États-Unis, mais aussi au Canada. Sans grande surprise, Joe Biden, qui est le président élu des États-Unis. Finalement, on parlait souvent des chemins à, les analystes appellent ça le chemin vers la présidence, là. Est-ce qu'il va passer par l'Arizona puis le Nevada ou finalement ça va être la Géorgie? Puis vraisemblablement, ce serait la Pennsylvanie, si j'ai bien compris, qui aurait fait de la différence.
Exactement. C'est l'issue d'élections présidentielles en Pennsylvanie qui a scellé le résultat du vote. Biden a été déclaré vainqueur hier en fin d'avant-midi. Et je trouve ça intéressant, l'observation et les remarques que vous faisiez tout à l'heure. Est-ce que les grands réseaux américains, parce que ce sont eux qui sont dans un certain sens les juges ultimes quand vient le temps de décréter la victoire de quelqu'un, est-ce qu'ils l'ont fait systématiquement pour voler la vedette à Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump qui devait faire une annonce du côté de la Pennsylvanie en lien avec la contestation des résultats? Je ne sais pas, j'aurais aimé être un oiseau dans les salles où les décisions se sont prises, mais une chose est sûre, ça a complètement éclipsé Giuliani et Trump. Et effectivement, Joe Biden, en remportant les 20 grands électeurs de la Pennsylvanie, se trouve à franchir le cap magique des 270 grands électeurs qui lui donnent accès à la présidence. Et d'ailleurs, en passant, officiellement, là, il est à 290 maintenant, mais ce nombre-là pourrait encore grimper puisqu'il est en avance en Géorgie, même si son avance est très, très mince. Donc, il pourrait y avoir plus de 300 grands électeurs dans la besace de Joe Biden. Et ça, c'est largement suffisant donc pour être déclaré président des États-Unis.
306, sauf erreur, c'était le nombre de grands électeurs remportés aux élections par Donald Trump en 2016. Joe Biden pourrait se retrouver avec quelque chose de semblable à ça, mais quand même, il y aura recomptage dans plusieurs États. Mais bon, ça, recomptage, on est quand même familier avec ça au Québec, au Canada, ça arrive, c'est très serré, on recompte les votes, pas de problème. Mais expliquez-nous, comment ça se fait que Donald Trump exigeait, en fait, là, qu'on arrête de compter les votes? Ça, je pense que ça lui a nu même auprès d'une partie de son électorat à lui de s'en prendre au système démocratique comme ça. Pourquoi il voulait qu'on arrête de compter les votes?
Mais essentiellement, parce que dans certains États américains, ce qu'on a fait dans le dépouillement du vote, c'est qu'on a commencé à calculer les votes qui avaient été faits en personne, c'est mardi, ça. Le jour de l'élection. Les gens qui se sont déplacés, donc, pour aller voter directement, placer leur urne, leur vote dans l'urne. Dans certains États américains, le décompte du vote par anticipation et du vote par la poste s'est fait immédiatement après. Et on savait tous, puisque Joe Biden avait appelé ses électeurs à voter par la poste, à voter par anticipation, alors que Donald Trump disait exactement le contraire, décourageait, en discréditant le service postal américain, discréditait ses propres partisans d'aller voter par anticipation, d'aller voter par la poste. Il savait donc très, très bien que plus on allait décompter dans le temps le vote par la poste, puis le vote par correspondance, puis le vote par anticipation, et ça prend un petit peu plus de temps, plus on allait s'avancer là-dedans, plus ça allait être un vote favorable à Joe Biden. Donc, dans un certain sens, en lançant des appels à arrêter le compte du vote, ça faisait en sorte que l'écart, l'avantage dont bénéficiait dès le début de la soirée Donald Trump, pourquoi? Parce que c'est le vote de ses électeurs qu'on comptait, le vote en présence, ben ça menuisait au fur et à mesure, en bout de ligne, il se serait trouvé perdant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En Pennsylvanie, par exemple, qui est l'État pivot, qui est l'État clé, une décision du Parlement de l'État avait fait en sorte que on ne pouvait pas commencer à dépouiller le vote par anticipation et le vote postal avant la fermeture des boîtes de scrutin. Et en commençant à dépouiller le vote direct des gens qui étaient allés voter. Puis après ça, en passant au vote par anticipation, au vote postal, on voyait très bien que dès le départ, Trump, qui avait un avantage marquant en Pennsylvanie, cet avantage-là a fondu comme neige au soleil. Et c'est pour ça qu'il lançait des appels désespérés à arrêter de compter, parce que plus on comptait, plus Joe Biden réduisait l'écart et éventuellement a pris le lead. C'est exactement ce qui s'est passé.
Il y a aussi question du fait que les observateurs républicains pouvaient pas assister au dépouillement. Ça a été mentionné par Giuliani, l'avocat de Donald Trump. Ça, je suis pas sûr non plus d'avoir compris cette partie-là. C'est quoi les règles, là? C'est quoi l'espèce de règle qui conteste à cet égard-là de vote frauduleux?
Ben, le problème, Paul Raphaël, là, c'est qu'aux États-Unis, contrairement à ce qui existe chez nous, il n'y a pas une loi électorale uniforme d'un bout à l'autre du pays. Ici au Canada, lorsqu'on a des élections fédérales, c'est Élections Canada qui s'organise pour gérer le scrutin. Les lois sont les mêmes, qu'on soit à Terre-Neuve ou au Manitoba ou au Québec, c'est les mêmes lois pour tout le monde. Aux États-Unis, ça fonctionne pas comme ça. La Constitution aux États-Unis dit que chaque État est responsable de la façon ou du moyen de désigner les grands électeurs qui vont représenter l'État. Donc, il y a aux États-Unis 50 lois électorales différentes. Ce qui fait que dans certains États, on permet certaines choses qu'on permet pas dans d'autres États, au niveau de l'enregistrement des électeurs, au niveau du dépouillement du vote, au niveau même des bulletins de vote, des machines qui sont utilisées pour compter le vote. Bref, c'est un foutoir total, la loi électorale aux États-Unis. Donc, d'un État à l'autre, les règles changent, et notamment sur la présence des fameux observateurs. D'ailleurs, ça, c'est un des trucs, et vous en parliez tout à l'heure. Tu sais, qu'il y a des contestations judiciaires après une élection, c'est tel que tel. Qu'on demande un recomptage, c'est une procédure normale, par exemple, lorsque les résultats sont très serrés. Et dans certains États américains, il y a des règles qui disent qu'il y a un décompte ou un recomptage automatique qui s'opère dès le moment où l'écart entre deux candidats est inférieur à un dixième ou un demi de 1%. Là où la chose change, c'est lorsque, par exemple, le camp Trump crie à la fraude, dit qu'il y a eu des irrégularités. Dans un tel cas, il faut absolument des preuves, des évidences documentées pour appuyer les recours en justice. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques pépins pendant le dépouillement du vote. Des problèmes informatiques à certains endroits, des bulletins postaux endommagés ou sur lesquels il manquait des signatures qui ont été acceptées. Tu parlais des observateurs dans les bureaux de scrutin. Bon, à certains endroits, les observateurs étaient maintenus à une certaine distance, justement pour pas interférer avec le travail. Et là, c'est la version de l'un contre la version de l'autre. Les républicains prétendent qu'on nous a interdit l'accès aux bureaux. De façon générale, c'est faux, c'est inexact. Ils ont eu accès, mais à un moment donné, puis avec la COVID puis les mesures contre la pandémie, on a dû les éloigner un petit peu, et ça a irrité grandement le camp républicain. Okay. Une autre histoire, vous avez peut-être entendu parler du Sharpie Gate. En Arizona, les électeurs votaient avec un crayon de type Sharpie. Et l'une des allégations qui circulait, c'est que l'encre s'est mise à pénétrer à l'intérieur du papier et a pu fausser le résultat du vote, le recto verso. Sauf que ça a été démontré qu'il n'y a aucun bulletin de vote qui a été annulé en raison justement de l'utilisation de ces fameux Sharpies. Bref, quand on fait le tour de la question, là, si tu dis qu'il y a eu fraude, si tu dis qu'il y a eu vol, si tu dis qu'il y a eu irrégularité, encore faut-il le démontrer. Et actuellement, il n'y a pas de preuve qui dit qu'il y a eu, tu sais, on voit des vidéos circuler sur Internet là, de destruction de bulletins de vote. Mais d'où viennent ces vidéos-là? La provenance de ces vidéos-là est, disons, douteuse. L'authenticité peut être remise en question. Bref, il n'y a pas de grand complot, pour autant qu'on sache actuellement, généralisé pour influencer le vote. Il n'y a pas eu de fraude massive.
Qu'est-ce qui se passe si Donald Trump, malgré les recomptages, malgré les contestations, si ça aboutit pas, qu'est-ce qui se passe si Donald Trump refuse, malgré tout, le 20 janvier, de concéder la victoire à Joe Biden?
Là, on est dans les scénarios fiction. Et avec Donald Trump, on peut s'attendre à peu près n'importe
c'est
quoi.
C'est ça l'affaire.
Il y a des choses pour lesquelles, par exemple, on est sûr. Donald Trump est encore président des États-Unis jusqu'au 20 janvier 2021 à midi.
Oui.
Ça, c'est une règle dans la Constitution. C'est ce qu'on appelle la période de transition. Sauf que dans l'intervalle, même si le président officiellement est encore au pouvoir, on s'entend que, on dit aux États-Unis, c'est un lame duck président. C'est un président canard boiteux. C'est-à-dire que sa légitimité est affaiblie. Parce que, oui, il est encore officiellement président pour 2 mois et demi, mais il y a un président élu qui s'en vient dans la balance. Et d'ordinaire, pendant cette période de transition, où normalement les équipes du président élu et du président sortant préparent la transition, la passation des pouvoirs, le président sortant, s'abstient de prendre des décisions importantes. Et généralement, s'il y a des décisions importantes à prendre, il va consulter le président élu. Là, sauf que dans le cas qui nous concerne, Donald Trump non seulement n'a pas concédé la victoire, mais il revendique la victoire. D'ordinaire, c'est un geste qui est élégant dans la tradition, c'est que celui qui a perdu appelle l'autre pour concéder la victoire puis l'assurer de son soutien. Oubliez ça, là. C'est pas ça qu'on est en train de voir avec Donald Trump. Alors, est-ce que Donald Trump va, je sais pas moi, au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, par certains gestes d'éclat, essayer de changer la trame narrative? Alors, par exemple, est-ce qu'il pourrait pas, je sais pas moi, se mettre à présenter par décret toutes sortes de projets de loi qui pourraient changer la donne? Est-ce qu'il pourrait pas, par exemple, engager l'armée américaine dans des opérations militaires à l'étranger pour détourner l'attention? Est-ce qu'il pourrait pas, par exemple, congédier des gens? On pense tout de suite là, au docteur Fauci, il est responsable de la santé publique, qui l'a pas en odeur de sainteté. Alors, bref, est-ce que pendant cette période de transition, plutôt que d'être low profile, comme le sont d'ordinaire tous les présidents sortants, au contraire, il ne va pas multiplier les gestes d'éclat pour peut-être chercher à nuire ou empêcher ou à mettre des bâtons dans les roues de Joe Biden? C'est la grande question qu'on peut se poser. Puis avec Donald Trump, on peut s'attendre à n'importe quoi.
Bon, ben, il va falloir qu'on se reparle des États-Unis, prof Arsenault, parce que le show va durer au moins minimum jusqu'au 20 janvier. On peut être sûr de ça.
Vous pouvez être sûr de ça. Et le pire, c'est qu'avec un show, des fois, le scénario est écrit d'avance. Tu sais à quoi t'attendre.
Ouais, là, c'est pas le cas.
Dans le cas de Donald Trump, le scénario n'est même pas encore écrit. Il s'écrit d'une minute à l'autre.
Ben, c'est la Ligue nationale d'improvisation.
Ouais. C'est la Ligue nationale d'improvisation. Ouais. C'est en plein. Et je suis pas convaincu, moi, que le principal acteur là-dedans, à savoir Donald Trump, c'est ce qu'il va faire, puis comment il va improviser. D'autant plus que les règles de l'improvisation, il les respecte même pas lui-même.
Il risque de recevoir des claques.
Oui.
Merci, prof Arsenault.
Salut, bonne journée tout le monde.
Bonne journée.
Prochaine.
Éric Arsenault, prof d'actualité internationale au cégep de Jonquière. Ça y prendrait un Yvan Ponton qui fait avec le gazou, là, me semble, ça ferait bien.
Oui.
Un auditeur nous a écrit pour nous parler des grands électeurs. Il nous dit, explique-nous donc c'est quoi les grands électeurs. En gros, j'ai lu là-dessus, puis c'est super hot. Les grands électeurs, c'est que à l'époque où on commençait à faire des élections et autres aux États-Unis, on n'envoyait pas tout le monde voter, tu sais, dans la capitale, puis c'était compliqué quand même, là, de déplacer les gens, faire circuler l'information. Donc, comment on fonctionnait, c'est que par état, on déterminait, en fonction de il y a combien de gens dans cet état-là, puis c'est plus ou moins un état plus ou moins important en population, on choisissait des individus de confiance, et donc on votait, par exemple, on va dire, dans l'état du Maine, on votait, puis on disait, OK, là, Vez, Alexis, nous, on vaut pour deux grands électeurs. Ça fait que Vez et Alexis, vous êtes nos deux gars de confiance. L'État a voté républicain, mettons. Donc, vous, on vous envoie juste tous les deux au Capitole, puis vous allez voter républicain.
Là, on part en chariot,
allez voter. Là, vous partez en chariot, vous allez voter. Vous êtes les deux grands électeurs, donc les
et
deux individus.
Selon la volonté du peuple, de notre État.
Mais ça peut arriver que des grands électeurs votent pas en fonction de la volonté de l'État. En 2016, il y a deux grands électeurs qui avaient pas voté pour Donald Trump et qui provenaient d'États républicains.
OK, puis est-ce qu'on est encore capable de les trouver aujourd'hui, ces deux-là?
Je sais pas, ils restent où, mais d'après moi, ils sont pas dans le bottin.
Mais c'est parce que on disait aussi à l'époque que moi et Vez, qui étions les grands électeurs dans ton scénario, on était des gens dignes de confiance. Fait que ça se peut que moi puis Vez, on devait voter républicain, mais en jasant, on s'est dit, sais-tu, dans le fond, républicain, pas le bon choix vraiment quand on regarde ça. On serait mieux de voter démocrate pour le bien de la population. Fait que, ils nous ont dit de voter républicain, mais moi, je vais voter démocrate. C'est toi, tu peux garder ton choix républicain. T'sais. Mais aujourd'hui, tu en as encore qui changent d'idée.
Ouais.
Mais grosso modo, il faut voir les grands électeurs comme des points. Ça sert
plus à grand-chose. C'est une pondération. Mais remarque, en 2016, il y en a deux qui n'ont pas voté pour Trump. Mais c'était exceptionnel. Puis c'est parce que Trump, il était tellement exubérant. Pis,
ouais,
mais il reste que c'est une faille dans le système quand même.
Oh oui,
c'est une faille parce que c'est basé sur la confiance. Puis vraisemblablement, tu serais mieux d'accorder juste des points que de fonctionner avec des grands électeurs.
Puis là, après ça, vous pouvez rentrer dans la proportion de, mettons que l'État, à majorité, a voté pour les républicains. Ben là, t'en as certains États pour qui tous les grands électeurs automatiquement vont se ranger dans un camp.
Ouais.
Mais t'as d'autres États contre
Nebraska,
comme le Nebraska
puis le Maine.
Eux, c'est en proportion.
Ouais, c'est ça.
Ça complique encore.
Puis, il faut qu'ils fassent, comme nous le souligne très justement un auditeur, très à propos, il faut qu'ils fassent au moins 6 pieds 2. C'est des grands électeurs.
Ben oui, c'est des grands électeurs.
Grands, bon. C'est ça,
ouais. Les petits, ça marche pas.
Ouais. Vez, Todd Bertuzzi, vas-tu déménager au Canada?
Je sais pas, mais je lisais cette semaine
ça,
que Durant... Oui, ben, l'ancien joueur de hockey, effectivement, qui vit aux États-Unis, dans le Nord, quelque part, je ne sais pas si c'est au Michigan, peu importe, a dit... Puis c'est un pro-Trump. avait dit que si Biden rentrait, il pensait sérieusement à revenir s'établir au Canada. C'est un Canadien.
Y a-t-il encore de l'argent, lui? Paye-tu des taxes?
Je sais pas.
On les prend toutes. Là, mais... Les riches, on les prend toutes, hein?
Oui, on peut y prendre.
C'est bon pour nous autres?
On peut y prendre. D'ailleurs...
Même si on mangeait beaucoup de coups, ça a
fait. Tom, le mardi soir, la soirée des élections, on racontait que sur les moteurs de recherche sur Internet, la tendance aux États-Unis, il y avait une tendance là, qui se dessinait.
Oui, oui.
La recherche, une des recherches les plus tapées, c'était comment déménager au Canada.
Oui, bien, je me souviens encore en 2016, si Trump gagnait, il y avait une publicité du Cap-Breton qui disait « Hey, venez donc chez nous, on vous accueille, ça va nous faire plaisir. »
Ouais. Ça, on voit tout le temps ça, là. Tu sais, moi, là, le monde, là, même des fois, c'est des personnalités publiques, mais à cette heure avec Twitter, là, Twitter, c'est un drôle de réseau social.
Oui, absolument.
Je suis là-dessus encore.
On se le demande.
Moi, je suis là-dessus pour faire des jokes, mais je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a encore du monde, là, tu sais, des kidam, là. Tu sais, le monde qui ose même pas mettre le vrai nom, là, sur Twitter, là, des monsieur un tel, puis
Adonis 34.
Miss quelque chose, ouais. Ils sont comme, moi, si Trump est élu, je déménage. Ou moi, si Biden est élu, je déménage.
Ben, déménage.
Ben, déménage, esprit.
T'es pas obligé de le dire à tout le monde.
Qu'est-ce que tu veux, ça me fasse, tu déménages. Puis là, je te parle pas d'un siège social, mettons, ou de, tu sais, ça, c'est tel que tel. Mais même, tu sais, même Depardieu, en France, tu sais, il avait dit, là, c'est le même. Oh, c'est très, très mauvaise imitation.
Oui, très.
Parce que, c'est comme ça, je m'en vais en Russie, putain.
Du coup,
un truc de ouf.
Pis, alors voilà.
Il a fini par partir en Russie. Ben, vas-y, Gérard, en Russie.
Il est allé.
Et vas-y, amuse-toi bien, rapporte-nous des recettes, je sais pas, moi, mais... Tu sais, qu'est-ce que tu veux que ça fasse, là, déménager? Déménage.
Autre point que j'ai retenu, c'est que, tu le sais, dans plusieurs États, le vote a été très, très, très serré. Il l'est encore, d'ailleurs. Mais... Il y a un truc aux États-Unis, c'est que à plusieurs endroits, mais vraiment plusieurs, tu peux ajouter un nom qui est pas officiel.
Oui, pis, OK.
Ben, en fait, c'est une façon d'annuler ton vote, dans le fond.
Je pourrais voter pour Vez, maintenant.
Ouais, on vote tous pour Vez. Mais avec sa côté.
OK. T'as Joe Biden, Donald Trump, autre deux points qu'une ligne.
Il y en a vraiment plusieurs qui ont utilisé ce stratagème.
Pour annuler
leur
vote,
okay. On parle d'un comté situé près de Philadelphie. Donc ça, c'est en Pennsylvanie, où ça a été très, très, très serré. Dans le comté en question, il y a à peu près 450 000 personnes et on a relevé les noms qui ont été écrits à la main ou qui ont été ajoutés sur des bulletins de vote. Entre autres, je ne les mentionne pas toutes là, parce qu'il doit en avoir une centaine. Hulk Hogan.
Ah, ben oui.
Yes.
Mickey Mouse qui a obtenu 23 votes.
23?
Quand même.
Oui.
C'est fort, ça.
Gritty, la mascotte des Flyers. Il y a même la mère de Gritty. Il y a quelqu'un qui a écrit Gritty's Mom.
Gritty's Mom.
Karl Marx.
On ne sait pas c'est qui, mais on va trouver.
Ah, Karl Marx.
Karl Marx, c'est un très bon choix. Bill Gates.
Ah, oh, pas Bill Gates.
Le pape François a reçu des votes.
Oh, yeah.
Benji, le chien.
C'est qui, lui?
Benji, le chien.
C'est un vedette d'un film familial. Là,
okay.
Pour enfants.
Je ne l'ai pas, celle-là.
Eddie Van Halen, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Yoda.
Yoda, ben
Yoda
oui.
Baby Yoda.
Dans Star Wars, ça. God. On a ajouté Dieu. God avec des votes. Dieu.
Pourquoi pas? Oui.
Quand
pourquoi
Dieu dirige, là, t'es en
mais vous savez que Joe Biden, hier, il a cité la Bible là, dans son discours.
Ben oui, mais il n'y avait pas le choix.
Ça faisait très américain.
Ben oui.
Ça, c'est le bout que j'ai fait. Ah bon, il cite la Bible.
Dieu nous invite à nous reconstruire. C'est le moment de se reconstruire.
Oh, sorrow and shadow of death.
Il y a son héritier aussi à Dieu.
Jesus.
Wonder Woman. Tom Brady.
Tom Brady,
ben, Dieu, Jésus, Tom Brady, ça va faire.
Godzilla, Dracula ont également reçu des votes.
Bon.
Tom Hanks, il y a quelqu'un qui a écrit Mon chien George. Bob l'éponge. Oui. Jules César, Elvis, le Père Noël ont tous reçu des votes. Bryce Harper, un joueur de baseball.
Mais tu sais, tous ces votes-là, c'est quand même une façon d'annuler son vote.
Ben, c'est ça.
Fait, quand tu votes pour ça, c'est parce que tu dis, moi, il n'y a personne, ça ne m'intéresse pas. Bon. Mais j'ai une théorie sur quelle est la raison qui a fait perdre Donald Trump, la raison principale.
Les votes frauduleux.
C'est pas les mensonges, c'est pas les complots, c'est pas QAnon, c'est pas les votes frauduleux, c'est pas le vote postal. C'est Joe Jorgensen.
Ah ben oui.
Qui est
sa faute.
Joe Jorgensen ou Joanne Jorgensen.
Okay, c'est une.
C'est une Jorgensen et c'est la chef du Parti libertarien.
Ah.
Puis quand tu... Je vous jure, là, c'est une vraie théorie. Là. C'est à cause d'elle si Trump a perdu. Parce que, bon, je vous explique. Prenant pour acquis Parti libertarien, c'est genre, on va dire, extrême droite économique. Dans le sens pas extrême droite, là, l'immigration, les racistes, puis tout. Extrême droite économique, donc, aucun programme social, aucune taxe, aucun impôt, le moins de gouvernement possible, puis toute la liberté aux citoyens, vraiment 100%. Mais aucune aide pour les pauvres, rien, là. Vraiment, c'est 100% le citoyen, OK? On s'entend que ces gens-là, si le Parti libertarien n'existe pas et qu'ils veulent voter, qu'ils veulent pas annuler leur vote, ils votent pour Trump.
Par défaut, oui.
T'sais, ils votent pour le Parti républicain. Ils voteront pas pour les démocrates, c'est impossible. Mais il faut prendre pour acquis, toute chose étant égale par ailleurs, qu'ils votent quand même et que le Parti libertarien n'existe pas. Si ça, ça se produit, je prédis, et je me trompe pas vraiment, que le Donald Trump gagne même s'il n'y a pas le vote populaire. Là, parce que là, Joe Biden est à 50,6, Trump est à 47,7, puis le Parti libertarien 1,2. Ça amènerait Donald Trump à 48,9 contre 50,6, ce qui n'est pas encore exactement...
Mais ça, c'est pas grave, ça. Non, pas de besoin, ça.
Non, c'est pas grave, parce que quand tu regardes les résultats dans différents États, les États clés, en ce moment, là, par exemple, Joe Biden remporte la Géorgie, mais avec les votes de Joe Jorgensen du Parti libertarien, c'est Donald Trump qui aurait gagné la Géorgie, l'Arizona, en Pennsylvanie aussi. En Pennsylvanie, il y a un 0.5% là seulement. Mm-hmm. Joe Jorgensen, elle a 1,1%.
Quand même, hein? Mais...
Tu comprends que si le Parti libertarien n'existe pas, puis que les électeurs du Parti libertarien votent pour Trump, ouais. Je sais que c'est pas exact.
Elle a divisé le vote.
C'est ces conditions-là qui sont pas exactes, parce que peut-être t'as des gens qui votent pour le Parti libertarien qui auraient annulé leur vote. Je comprends ça.
Ouais.
Mais vous comprenez que dans les chiffres quand même, là, ça démontre peut-être simplement à quel point c'est serré comme résultat.
Mais si on veut pousser d'élection. Ça, si tu prends tous les votes des Verts, t'es enlèves aux Verts, t'es donnes à Joe Biden, là, d'après moi, ça permet à Biden de repasser.
On peut jouer à ce jeu-là beaucoup,
ouais.
Mais les Verts ont pas la popularité du Parti libertarien.
Moins un peu, effectivement, t'as raison.
Les Partis libertariens dans les États clés, c'est tout le temps à peu près 1%, entre 1 puis 1,5.
Mais si on donne les
puis
votes
les
de
États
Mickey
se
Mouse,
jouent par un demi à 1%. Ça fait qu'on s'entend que ça aurait vraiment pu faire la différence.
Les votes de Mickey Mouse auraient tout changé.
Ouais, les 23 votes de Mickey Mouse, c'est un
affaire. Il y a même quelqu'un qui a ajouté... Aucun ne mérite d'être président.
Ah, on a dit ça. Ben non, mais moi, Joe Biden, il m'a comme un peu séduit hier quand je l'ai arrivé, quand je l'ai vu arriver à son discours en joguant, là. En joguant, comme quand le café le matin, tu le bois un petit peu trop vite, puis là, pas là, tu te dépêches de la salle de bain. Non, mais tu sais, faut le faire quand même. Le monsieur, tu sais, moi, je trouve ça super hot. Regarde, il est président des États-Unis. Let's go, là. Mais, tu sais, arrivant en joguant à ton discours pour justement essayer de contrer un peu l'image de Sleepy Joe.
Oui, oui, oui.
Puis, tu sais, son discours, là, il l'a hurlé, là. Je sais pas si vous avez regardé, là. Mais 12 minutes, là, à gueuler, là, vraiment, là. Oh, fellow American folks! We are gonna... Il criait. Tu sais, bon, je comprends l'idée, là.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states... Only sees the United States.
Mais je dois quand même dire, puis on va aller à la pause là-dessus, là. Je dois quand même dire, puis là, peut-être mon jupon va dépasser, je m'en fous, mais je dis ça, puis de toute façon, je suis ni républicain, ni vraiment démocrate. Non, je suis en fait aucun des deux, mais j'étais pas un fan de Trump, on va dire ça de même, là. C'est quand même un peu soulageant d'avoir un président élu américain qui parle d'unir le pays, de, tu sais, de qui a un ton rassembleur, qui a une certaine classe aussi. Je sais que ça fait pas foi de tout, puis qu'il y a peut-être des citoyens américains dont la vie va réellement changer. Bon, on verra, là. On jugera les politiques quand il sera rendu là. Mais hier, je trouvais que c'était comme, OK, c'est comme si les choses redevenaient un peu normales, puis que c'était un cirque depuis une couple d'années, là. Bref, c'est assez. La politique américaine, bras matin, là. Hein?
Fais le tour.
OK.
Pour cette fin de semaine.
Tour de table. Trump.
Mais moi, c'est le bong, bong, bong. Ça me faisait penser à Joe cadeau. Biden qui arrive, là, tu sais. Bong, bong, bong.
On la veut plus. Jusqu'à 10 heures.